Vous écoutez, on lit pour vous.
Des villes innovent pour contrer l'obésité spatiale. Un texte de Zacharie Goudreau, paru le 15 avril 2024 dans Le Devoir. De l'interdiction de fusionner des logements pour créer des résidences unifamiliales à l'ajout d'habitations accessoires sur des terrains déjà occupés par des maisons, les villes du Québec font preuve d'ingéniosité pour s'attaquer à la crise qui sévit sur le marché locatif en stimulant la construction de nouveaux logements tout en préservant ceux qui existent. Tour d'horizon. Les résidents du plateau Mont-Royal ont pu se prononcer mardi le 9 avril 2024 lors d'une assemblée publique sur des changements réglementaires que souhaite mettre en place l'arrondissement afin d'interdire de plein droit les conversions de duplex et de triplex en résidences unifamiliales. En effet, depuis 2017, ce sont 139 logements qui ont été retirés du marché locatif du plateau Mont-Royal en raison de la transformation de duplex en résidence unifamiliale à la suite de l'octroi de permis autorisant ces conversions dans l'arrondissement. Il ne faut pas oublier l'importance des petits logements, souligne la conseillère municipale du district du Myland, Marie Plourde, qui note que plusieurs familles monoparentales vont généralement chercher à occuper un étage d'un duplex ou d'un triplex. Or, ces logements locatifs sont menacés par le phénomène de l'obésité spatiale qui incite des propriétaires à occuper un plus grand espace, par exemple en agrandissant leur cuisine ou en aménageant une pièce de leur logis en espace de travail, souligne Mme Plourde. Dans un rapport publié en février 2024, le titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal, Pierre-Olivier Pinault, notait d'ailleurs que la surface moyenne des logements avait augmenté de 23 % au Québec entre 1990 et 2021, période pendant laquelle la taille des ménages a pourtant diminué. Si on se plaint d'avoir une crise du logement, ce qui est paradoxal, c'est qu'on n'a jamais eu autant de pièces vides dans les habitations de la province, souligne M. Pinault, qui recommande au gouvernement Legault d'imposer une forme de taxation aux Québécois en fonction du nombre de mètres carrés qu'ils occupent pour se loger. Entre-temps, le plateau Mont-Royal souhaite bonifier des changements réglementaires mis en place en 2021 en étendant à l'ensemble de son secteur résidentiel l'interdiction de réduire le nombre de logements d'un bâtiment existant. Les amendes imposées aux contrevenants seront par ailleurs doublées pour atteindre 1 000 pour une première infraction et 2 000 pour une récidive, s'il s'agit d'une personne physique, indique une présentation de l'arrondissement. Ce sera le double pour les entreprises. Augmenter la densité. La ville de Longueuil interdit pour sa part depuis 2019 de transformer des bâtiments locatifs en copropriétés divises lorsque le taux d'inoccupation sur le marché locatif est en dessous de 3 %. Mais on pourrait élargir cette mesure aux résidences unifamiliales si ces dernières représentaient à terme une menace pour le secteur locatif, confie au Devoir la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. Pour l'instant, cependant, c'est plutôt l'inverse qui se produit dans sa ville, relève-t-elle. Ce qu'on voit le plus à Longueuil, c'est la démolition de maisons unifamiliales pour créer du multiplex, soit des bâtiments de plusieurs logements généralement destinés à des locataires. Une situation qui pose certains défis pour la ville de la Rive-Sud. On veut densifier le territoire et, en même temps, on veut protéger le patrimoine, donc il y a un jeu d'équilibre auquel on fait face, souligne Mme Fournier. Les élus du plateau Mont-Royal et de Longueuil sont d'ailleurs loin d'être les seuls à réfléchir à des moyens de s'attaquer aux besoins en matière de préservation et de création de logements locatifs. À l'échelle de la Communauté métropolitaine de Montréal, CMM, qui comporte 82 municipalités, une refonte du Plan métropolitain d'aménagement et de développement, PMAD, qui date de 2012, est en cours. L'objectif de cette démarche, qui aboutira en 2025, est notamment de revoir les seuils de densité dans l'ensemble de la région, où les maisons individuelles représentaient la moitié des mises en chantier au début des années 2000. En 2022, ce pourcentage avait chuté à 6 % dans la région au profit de la construction de bâtiments locatifs. Or, malgré cette densification du cadre bâti, l'utilisation de l'espace disponible pour des développements à faible densité demeure préoccupante, écrivait la CMM dans un rapport diffusé l'an dernier. Ainsi, même si les maisons individuelles n'ont représenté que 7,6 % des mises en chantier dans l'ensemble de la région entre 2016 et 2021, elles ont constitué près de la moitié, 46 % de l'espace utilisé pour du développement résidentiel, notait le rapport. Dans ce contexte, la CMM entend recommander aux municipalités de la Grande Région de Montréal de faciliter l'ajout d'habitations accessoires sur des terrains déjà occupés par des maisons individuelles afin d'augmenter le nombre de personnes logées sur un même lot. Il s'agit d'ailleurs là d'une mesure mise en avant par la ville de Sherbrooke, qui a entamé l'an dernier un processus de changement réglementaire, toujours en cours, qui vise à permettre aux propriétaires d'une résidence unifamiliale d'ajouter un logement au sous-sol de celle-ci ou encore dans un bâtiment distinct qui serait construit dans la cour arrière. Longueuil entend également agir en ce sens. Ainsi, en permettant à des propriétaires de maisons individuelles de loger des locataires sur leur terrain, on vient facilement augmenter le nombre de logements disponibles dans le parc locatif et, dans bien des cas, ça ne paraît pas dans le voisinage, ce qui limite les risques d'opposition citoyenne à la densification, relève l'urbaniste Marie-Michèle Cauchy, qui est aussi responsable de la révision du PMAD au sein de la CMM. Des mesures fiscales. À Gatineau, les élus ont pour leur part décidé de stimuler la construction de logements sociaux et abordables dans le centre-ville en offrant aux promoteurs qui incluent de telles propositions dans leurs projets la possibilité de recevoir des subventions couvrant 90 % de leurs taxes municipales jusqu'à 10 ans, relève le maire par intérim de Gatineau, Daniel Champagne. La ville a par ailleurs adopté récemment une politique lui permettant de vendre à des promoteurs immobiliers certains terrains municipaux sous certaines conditions. Ce qu'on souhaite, c'est que, lorsqu'un promoteur va se porter acquéreur d'un terrain municipal, on travaille sur l'application de mesures d'assouplissement qui vont favoriser, voire obliger dans certains cas, l'ajout de logements abordables, sociaux et communautaires, explique M. Champagne, qui précise que 700 logements entrant dans ces catégories seront en chantier cette année à Gatineau. C'était « Des villes innovent pour contrer l'obésité spatiale », un texte de Zachary Goudreau, paru le 15 avril 2024 dans Le Devoir.
Voici les trois meilleurs burgers de poulet surgelé. Une chronique signée Isabelle Huot, parue le 25 juin 2023 dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Récemment, les galettes à base de viande rouge ont fait l'objet d'un banc d'essai. Cette semaine, mon analyse porte sur les galettes de poulet. Représentent-elles de meilleurs choix? Mon analyse. 11 choix de burgers surgelés au poulet ont fait l'objet du banc d'essai. La portion d'une galette a été utilisée pour comparer les produits. Chaque portion d'une galette, 83 à 142 grammes, apporte entre 120 et 260 calories, entre 7 et 14 grammes de lipides, dont entre 1 et 2,5 grammes de gras saturé, entre 0 et 24 grammes de glucides, entre 0 et 3 grammes de fibres, entre 0 et 2 grammes de sucre, entre 10 et 27 grammes de protéines, entre 210 et 480 mg de sodium. Les bons choix. Les burgers de poulet non panés de Flamingo offrent une belle valeur nutritive. Une portion de 100 g, une galette, contient 120 calories, 7 g de lipides, dont 2 g de gras saturé, 14 g de protéines et 210 mg de sodium, soit la teneur la plus faible en sodium du banc d'essai. Ces galettes présentent également une liste des ingrédients épurés. Parmi les meilleures options, on trouve également les burgers de poulet extra maigre de Compliment Équilibre. Une galette de 142 g fournit 180 calories, 10 g de lipides dont 1,5 g de gras saturé, 24 g de protéines et 340 mg de sodium, soit des valeurs nutritionnelles plus intéressantes que la moyenne des produits analysés. De plus, la liste des ingrédients est simple. Les burgers de poulet, le choix du président, font aussi partie des meilleurs choix. Une galette de 142 g apporte 230 calories, 12 g de lipides, dont 2,5 g de gras saturé, 27 g de protéines et 350 mg de sodium. Ces galettes sont donc les plus riches en protéines et parmi les moins riches en sodium du banc d'essai. De plus, la liste des ingrédients est courte et simple. Les compromis. Les compromis incluent les burgers de poulet de sélection. Ces galettes ont des valeurs nutritives similaires à la moyenne, puisqu'une galette de 100 g fournit 220 calories, 10 g de lipides, dont 2 g de gras saturé, et 320 mg de sodium. Toutefois, elles contiennent un peu moins de protéines, 12 g que la moyenne, 15 g des produits analysés. De plus, la liste des ingrédients présente quelques additifs alimentaires, exemple, chlorure de potassium, gomme de gare. Les burgers de poulet panés de Compliment se trouvent également parmi les compromis. Une galette de 98 g apporte 240 calories, 13 g de lipides dont 1,5 g de gras saturé, 11 g de protéines et 380 mg de sodium. Ces burgers contiennent donc moins de gras saturé que la moyenne, mais également moins de protéines. En revanche, la liste des ingrédients est simple et sans additifs. Enfin, parmi les compromis, il y a aussi les burgers de poulet de Maple Leaf Prime. Une galette de 83 g contient 190 calories, 9 g de lipides, dont 2 g de gras saturé, 11 g de protéines et 390 mg de sodium, soit des valeurs nutritives similaires à la moyenne des produits analysés, sauf pour les protéines et le sodium. Toutefois, la liste des ingrédients est plutôt simple. Les moins bons choix. Les burgers de poulet pané style Pub de Jane's sont une moins bonne option. Une portion de 88 g, une galette, contient 220 calories, 11 g de lipides, dont 1,5 g de gras saturé, 10 g de protéines et 460 mg de sodium. Ces burgers sont donc les moins riches en protéines et parmi les plus riches en sodium du banc d'essai. Toutefois, la liste des ingrédients est plutôt simple. Enfin, les moins bons choix incluent les burgers de poulet pané de Valeur Plus. Une galette de 110 grammes fournit 260 calories, 13 grammes de lipides, dont 1 gramme de gras saturé, 11 grammes de protéines et 480 mg de sodium. Ce produit présente donc la teneur la plus élevée en sodium du banc d'essai et une quantité de protéines inférieure à la moyenne. De plus, la liste des ingrédients est longue et contient de l'huile de palme modifiée et de la gomme de gare, un additif alimentaire utilisé comme épaississant. Bœuf ou poulet? En comparant les valeurs moyennes pour les burgers de viande rouge, essentiellement bœuf, et de volaille, on ne peut que constater que les burgers de poulet sont plus intéressants. Ils sont moins caloriques, moins gras, moins riches en gras saturé et en sodium que les burgers de viande rouge. Qu'en est-il des burgers de poisson et végétariens? On s'y attarde au cours des prochaines semaines. Burger de viande rouge. Une galette égale 85 à 200 grammes. Calories. En moyenne, 355, minimum 170, maximum 150. Gras total en grammes. En moyenne, 27, minimum 9, maximum 42. Gras saturé en grammes. En moyenne, 11, minimum 4, maximum 18. Protéines en grammes. En moyenne 25, minimum 15, maximum 40. Sodium en milligrammes, en moyenne 512, minimum 85, maximum 1380. Burger poulet, une galette égale 83 à 142 grammes. En calories, en moyenne 208, minimum 120, maximum 260. Gras total en grammes, en moyenne 11, minimum 7, maximum 14. En gras saturé, en grammes, en moyenne 2, minimum 1, maximum 2,5. En protéines, en grammes, moyenne 15, minimum 10, maximum 27. Sodium, en milligrammes, en moyenne 364, minimum 210, maximum 480. C'était « Voici les trois meilleurs burgers de poulet surgelé », une chronique signée Isabelle Huot, parue le 25 juin 2023 dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal.
Nourrir notre monde. Un texte de Moïse Marcoux-Chabot, paru le 13 avril 2023 dans le magazine Nouveau Projet. En Haute-Gaspésie, des communautés de pratique s'organisent pour améliorer leur autonomie alimentaire et leur résilience face au changement climatique. Un seul corridor routier relie les villages de la Haute-Gaspésie. La route 132, qui serpente d'une vallée à l'autre le long du Saint-Laurent, à l'ombre des falaises. Avec le réchauffement des températures, le couvert de glace qui protégeait autrefois la côte ne se forme plus comme avant. Déjà, en 2016, les grandes marées de décembre ont fortement endommagé 4 tronçons de la route, isolant la municipalité de Lamartre pendant plusieurs jours. Depuis cet événement, les enjeux de l'érosion côtière, de l'autonomie alimentaire et de la résilience des communautés sont devenus, on ne peut plus, concrets, notamment pour Rosie Roque-Lallier, de Nourrir notre monde Haute-Gaspésie. Accompagner les communautés pour créer de la résilience, c'est un pas pire défi. C'est nouveau pour tout le monde. On sait que ça s'en vient depuis longtemps, mais le vivre, c'est autre chose. En 2017, c'est de la démarche intégrée en développement social de la MRC de la Haute-Gaspésie qu'émerge « Nourrir notre monde », une réflexion collective sur l'autonomie alimentaire. L'initiative inspire d'autres communautés et, dès 2019, l'ensemble des territoires de Gaspé-Île-de-la-Madeleine emboîte le pas et forme un collectif régional. Il faut dire que la création de liens et le partage de pratiques sont des forces du milieu gaspésien. Si le faible accès à une alimentation saine était déjà un enjeu dans certaines localités, la pandémie et la hausse du coût des denrées ont amplifié l'intérêt des communautés pour l'autonomie alimentaire. En Haute-Gaspésie, un groupe Facebook consacré à l'autosuffisance regroupe plus de 1700 membres qui échangent conseils, semis, matériels, surplus et recettes. Sur le même territoire, un service d'accompagnement soutient les jardins communautaires alors que le projet des Anges Jardins favorise l'implantation de haltes nourricières ainsi que la récolte et la redistribution de semis, de fruits et de légumes autrement perdus. Depuis 2020, un projet expérimental se déploie avec le soutien financier du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Le Lab Nourrir notre monde. Le Lab, c'est une occasion de créer une espèce d'incubateur d'infrastructures alimentaires. C'est un ensemble de projets collectifs et communautaires qui vont nous permettre d'augmenter la production, la consommation et la conservation d'aliments locaux, explique Marie-Ève Paquette, au cœur de l'initiative depuis son idéation. En jonglant avec différentes contraintes sanitaires, l'équipe du Lab accompagne les communautés dans l'élaboration de leurs projets, localité par localité, notamment en finançant le coût des infrastructures. 13 idées porteuses ont été identifiées, puis implantées par autant de comités de citoyens et citoyennes. Des caveaux à légumes communautaires à Cap aux Renards et à Rivière-à-Claude. De nouveaux jardins à Mont-Louis, à Cap-Chat et à Sainte-Anne-des-Monts, ainsi que des serres collectives à Cap-16, à Tourelle et à Mont-Saint-Pierre ont pu voir le jour. À Capucin et à Gros-Morne, ce sont plutôt des services de partage d'outils de jardinage qui ont été développés, alors qu'à Madeleine-Centre, on s'est doté d'un pavillon agricole et à Marsouy, d'une cour d'école nourricière. À La Martre, municipalité particulièrement touchée par l'érosion côtière, la question de la disponibilité du garde-manger marin a mobilisé la population qui a travaillé sur un meilleur accès à la plage et sur l'aménagement d'une table à poissons. Alors que ce projet pilote tire à sa fin, l'équipe de Nourrir notre monde, Haute-Gaspésie, compile les apprentissages, les guides techniques et les outils de transfert réunis depuis 3 ans en souhaitant que l'expérience puisse se poursuivre et s'étendre. Pour Rosie Roch Lallier, c'est l'heure des bilans. La plupart des participants avaient une vision beaucoup plus large que leur projet de jardin, de caveau ou de serre. Elle s'étendait à des valeurs partagées, un concept et un rêve pour leur localité. C'est beau de travailler avec des citoyens qui sont optimistes par rapport à leur pouvoir d'agir et à leur capacité de créer du changement. L'apprentissage collectif du « faire ensemble » et l'émergence d'une série de comités de citoyens et citoyennes lui donne confiance pour la suite. On a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ça donne un peu l'impression qu'on peut agir sur plein d'autres enjeux, si les gens se sentent touchés. D'autres initiatives locales pour la transition, des groupes écologistes vigilants. Les projets industriels extractivistes ne manquent pas sur la péninsule gaspésienne, mais les citoyens et citoyennes préoccupés par l'environnement s'organisent. Au gré des enjeux prioritaires, des initiatives ont émergé ces dernières années. Des groupes comme Ensemble pour l'avenir durable du Grand Gaspé. Gaspé en transition. Tâche d'huile. Environnement vert plus. Le camp de la rivière. Coupe 911. Et le Comité pour l'amour des forêts y joue un rôle de surveillance et de résistance de la lutte contre les projets d'hydrocarbures à la protection du caribou forestier en passant par la préservation de l'eau potable et la défense des forêts anciennes contre l'exploitation forestière. Un garde-manger frais à l'année. Se nourrir de produits frais et locaux à l'année en Gaspésie? C'est possible, même sans jardin chez soi. Dans la baie des Chaleurs, des entreprises de production et de transformation alimentaire ont formé en 1999 le réseau bio de la baie, devenu en 2010 Baie des Saveurs. Grâce à un système de commande en ligne et à des points de chute approvisionnés toutes les deux semaines, de novembre à avril, les membres ont notamment accès aux légumes d'hiver fraîchement sortis du caveau des jardins Viridis à Maria et à des conserves et lactofermentations de récoltes déclassées transformées par la conserverie mobile au tour du pot. Une solution de rechange savoureuse à l'offre hivernale des supermarchés, souvent fade, chère et à lourde empreinte écologique. Un espace communautaire autogéré. Apparu en 2015 dans le décor de Bonaventure, le loco-local se définit comme un lieu collectif ouvert et versatile qui abrite un collaborium, la bibliothèque féministe, la page pourpre et une bibliothèque d'outils proposent des événements culturels et des activités café-réparation et administrent un groupe d'achat. Chapeauté par la coopérative de solidarité Horizon Gaspésien et géré horizontalement par ses membres, le loco-local offre un espace de rassemblement apprécié par la communauté. C'était « Nourrir notre monde », un texte de Moïse Marcou Chabot, paru le 13 avril 2023 dans le magazine « Nouveau projet ».